Un seul jour de télétravail, sur le papier, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me ressemble juste à un petit détail logistique, quoi.
Ouais, une bête case à cocher dans un emploi du temps.
C'est ça. Sauf que le 15 juin 2026, au sein de la Société Générale, cette petite question d'agenda, c'est devenu l'étincelle qui menaçait de faire exploser tout le système.
Une vraie crise psychosociale massive en devenir, oui.
Et c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette exploration de nos sources. On a mis la main sur un document super intéressant. C'est un tract syndical interne rédigé par la CGT de la Société Générale.
Un document vraiment unique au passage.
Ah, totalement. Et je préfère le préciser tout de suite pour ceux qui nous écoutent. Notre mission ici, c'est absolument pas de prendre parti. On est là en tant qu'observateur neutre.
Exactement. On n'est pas là pour dire qui a tort ou raison.
Voilà. On va plutôt faire une sorte d'autopsie organisationnelle. On va disséquer la rhétorique, les mécanismes légaux que le syndicat utilise et sa stratégie de com face à une rupture totale du contrat de confiance.
Et honnêtement, le ton de cette crise, il est donné avant même de lire la première ligne du tract.
Ah oui, visuellement, c'est la claque.
C'est ça. L'esthétique n'a vraiment rien à voir avec les communications internes habituelles d'une banque. Tu sais, d'habitude, on a droit à des couleurs pastels, des messages super lisses et rassurants.
Des trucs très corpos, quoi.
Voilà, très corpos. Là, bam, on est frappé par des bandeaux d'en rouge vif agressif. C'est littéralement conçu pour créer un arrêt brutal chez le lecteur.
C'est vrai que tu peux pas la rater en scrollant.
Impossible. Et en haut, t'as le logo de la CGT avec un slogan qui dit « Notre différence, c'est vous ». Et juste en dessous, un hashtag massif en lettres jaunes sur fond noir.
Le fameux hashtag « au plus proche de vous ».
Ouais, et c'est une subversion hyper intelligente. Le syndicat s'approprie les codes marketing de la direction pour lancer une alerte. Le design lui-même te hurle que c'est pas une mise à jour d'Ortine.
C'est une vraie sirène d'alarme. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le titre du document tient en deux mots seulement, en grosses majuscules, « assez joué ».
Ils entrent direct dans le vif du sujet.
Bah oui, ils perdent pas de temps. Le tract liste tout de suite une série de signaux d'alerte, les baromètres employeurs qui dégringolent, les alertes de la médecine du travail, les remontées du service social.
Et les constats des représentants du personnel, bien sûr.
Voilà. Mais attends, je me fais l'avocat du diable deux secondes. Ce genre de liste alarmiste, c'est un peu le grand classique dans un tract syndical, non? C'est pas juste la dramatisation habituelle.
C'est une très bonne question. Et c'est justement là que la stratégie de ce tract devient redoutable. Ils savent que ça peut être perçu comme de la plainte classique.
Du coup, comment ils contournent ça?
En s'appuyant direct sur une validation externe. Ils pointent la source de la crise, donc la gestion du télétravail décidée par le directeur général Slawomir Krupa en juin 2025.
La fameuse décision qu'ils appellent un oukaz.
Oui. Un oukaz, c'est fort comme terme. Historiquement, c'est un édit impérial des tsars russes.
Ah oui, le truc complètement arbitraire qui tombe d'en haut.
Exactement. Zéro consultation. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la mention du cabinet Sekafi juste après.
Attends, c'est le cabinet d'expertise indépendant, c'est ça?
C'est ça. Le tract souligne que ce cabinet a documenté les risques graves liés à cette nouvelle politique. Et Sekafi, c'est pas n'importe qui. C'est un organisme mandaté par les CSE, donc leurs rapports ont un vrai poids juridique.
Ah, je vois. Donc ça change tout.
Totalement. En citant Sekafi, il transforme un sentiment de ras-le-bol en une preuve clinique. C'est plus juste la CGT qui râle. C'est un expert légal qui atteste d'un danger systémique.
Ça verrouille leur argumentaire si la direction essaie de minimiser. C'est super malin.
Et le document explique hyper bien comment cette pression s'est propagée dans la boîte.
L'effet cascade, ouais.
C'est ça. Une cascade de responsabilités. On part du haut de cet oukaz présidentiel et bam, la direction se décharge sur les managers locaux.
On leur demande de gérer les pots cassés, en gros. Sauf qu'ils ne peuvent pas absorber le choc. Du coup, la pression, elle glisse vers la médecine du travail, puis vers un organisme externe de prévention.
Préventis?
Voilà, Préventis. Et au final, tout en bas de la chaîne, cette charge monumentale, elle s'écrase sur qui? Sur les épaules du simple salarié.
C'est l'entonnoir classique des crises internes.
Moi, ça me fait penser à l'architecture d'un immeuble, tu vois. C'est genre, la direction abat tous les murs porteurs pour faire un open space géant, on enlève l'autonomie des managers, le soutien RH, et au final, tout le poids du toit repose sur de simples cloisons en placo.
Les cloisons étant les employés.
Exactement. Fatalement, ça fissure de partout.
Ton analogie est parfaite. Le tract dit clairement que les managers de proximité et les RH ont reçu aucun moyen. Zéro pouvoir d'adaptation.
Ils deviennent juste des exécutants d'une règle aveugle.
C'est ça, des courroies à transmission. Et ça culmine avec cette fameuse phrase dans le document, qui est un vrai ultimatum de la boîte envers les salariés.
Ah oui, la citation choc. Soit vous validez le jour que votre manager vous propose, soit vous n'avez plus de télétravail.
C'est glaçant comme formulation.
Bah, c'est d'une violence. Mais bon, si on regarde ça de loin, on pourrait se dire, bah quoi ? La boîte demande juste aux gens de s'accorder sur un planning. C'est pas une surréaction du syndicat pour une bête histoire d'agenda.
Si on l'isole, oui, ça a l'air banal. Mais la CGT démonte cette méthode pour montrer qu'il y a une vraie rupture du contrat de confiance managériale.
Comment ils font ça ?
Ils utilisent 4 mots hyper incisifs à la fin de leur paragraphe pour qualifier cette méthode. Ils écrivent que c'est, je cite, « cynique, brutal, inacceptable, dangereux ».
Waouh ! On est loin du jargon corpo, là.
Complètement. Chaque mot a une fonction précise. Cynique, parce que ça donne l'illusion d'un choix, alors que t'as qu'une option valide sous peine de sanction.
Bah oui, c'est du chantage, en fait.
Brutal, parce que ça ignore les contraintes de vie des gens. C'est du descendant pur et dur.
Et inacceptable ?
Parce que ça attaque des acquis sociaux sur la flexibilité. Et le dernier, dangereux, c'est le plus important. Ça fait pivoter tout le débat sur la santé mentale et physique.
Ah, ça prépare la suite de leur attaque.
Exactement. Ces 4 mots, c'est un constat de décès du dialogue traditionnel.
D'ailleurs, cette mort du dialogue, elle est hyper bien illustrée par le petit dessin de presse qu'ils ont mis dans le tract.
Le dessin avec la pipette.
Oui. On y voit un mec en chemise-cravate, donc la direction, qui tient une pipette de labo. Et devant lui, il y a un immense bocal en verre rempli à ras-bord, avec le logo de la Société Générale dedans.
Et le mec fait tomber une toute petite goutte.
Voilà. Une minuscule goutte dans ce bocal déjà plein à craquer, et la bulle au-dessus de sa tête dit « et une de plus ». C'est l'illustration parfaite de la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
C'est un résumé visuel génial de leur théorie. Ça montre le décalage de réalité entre le sommet et la base.
Bah, pour le boss à la pipette, c'est rien, c'est juste un mini-aménagement.
Sauf que le botal, c'est les salariés. Et le dessin montre que le niveau de stress et de charge mentale était déjà à 100%. Quand le bocal est plein, la taille de la goutte n'a plus aucune importance, ça déborde, point.
C'est là que ça devient vraiment intéressant dans leur façon de construire le tract. Parce que une fois qu'ils ont posé ce constat que tout va exploser, comment ils ripostent ?
Surtout quand les voies de négociation normales sont fermées.
Exactement. Ils ont une section qui s'appelle « une page blanche ». Et là, fait rarissime, le syndicat avoue carrément qu'ils ne vont pas se battre sur le droit.
Oui, c'est très étonnant.
Ils écrivent, je cite, « Le problème n'est pas tant pour nous de savoir si légalement la direction a le droit de faire ça ou pas. Venant d'un syndicat dont l'arme numéro un, c'est le code du travail, c'est fou, non ?»
C'est un pivot stratégique énorme. La direction s'est probablement blindée juridiquement sur cet accord de télétravail. Attaquer sur le droit pur, ce serait un mur.
Donc ils contournent le mur.
Ils déplacent le combat sur le terrain de la culture d'entreprise. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est un vrai choc des cultures qu'ils dénoncent.
Il reparle de l'histoire de la banque, d'ailleurs.
Tout à fait. Il rappelle qu'historiquement, à la Société Générale, les gros sujets se réglaient par un, je cite, « consensus unanime ».
Une vraie négociation, quoi, même si c'était rude.
Exact. Un équilibre loyal. Et là, ils opposent ce passé à cette nouvelle charte qu'ils qualifient de déséquilibrée, imposée en force.
Et ils se gênent pas pour tacler ceux qui ont signé, d'ailleurs.
Ah bah, ils égratignent ouvertement un autre syndicat qu'ils trouvent trop complaisant et une direction des ressources humaines qui est juste bien contente d'avoir une signature.
En gros, ils se posent comme les derniers vrais gardiens de l'âme de la boîte.
C'est le deuil d'une méthode historique de négociation qu'ils font là. Ils disent que cette méthode à la hussarde va créer une instabilité dingue.
Ce qui nous amène direct à leur contre-attaque lourde. Vu qu'ils lâchent l'argumentaire légal sur les plannings purs, ils sortent l'artillerie sur la santé.
Et là, les mots qu'ils utilisent, c'est pas de la blague.
Non, ils parlent de menaces de DGI et d'une possible faute inexcusable. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que pour le commun des mortels, ça a l'air de termes juridiques un peu vagues.
Ah, c'est tout sauf vague. Le DGI, le danger grave et imminent, c'est l'équivalent du bouton nucléaire en droit social.
Ah ouais ? À ce point ?
Oui. Si un élu lance un DGI en prouvant que la santé mentale ou physique des gens est en péril immédiat, la direction peut pas juste faire un mail pour dire « on a noté ».
Ils sont obligés d'agir.
La loi les force à faire une enquête immédiate avec le CSE. S'ils sont pas d'accord, l'inspection du travail débarque direct. Et surtout, ça donne le droit de retrait aux employés.
Donc des services entiers peuvent s'arrêter de bosser du jour au lendemain. C'est le vrai frein d'urgence.
Et la faute inexcusable, c'est encore le niveau au-dessus.
Comment ça ?
En gros, si un employé fait un burn-out et va au prud'homme, l'entreprise sait à peu près combien ça va lui coûter. C'est plafonné. C'est un risque calculé.
Un budget provisionné, quoi.
Voilà. Mais la faute inexcusable, ça veut dire que l'employeur savait qu'il y avait un danger et n'a rien fait. Et avec toutes les alertes médicales et le rapport CECAFI que la CGT a mis dans le tract,
le syndicat prouve que la direction savait.
Exactement. Et si un tribunal reconnaît cette faute, les plafonds financiers explosent. La réparation est intégrale et les dirigeants peuvent même être attaqués au pénal.
En clair, ils disent à la direction « Votre petit jeu d'agenda peut vous coûter des millions sans plafond ».
C'est exactement ça.
Et le timing de cette menace, c'est diabolique. Il y a un petit bout de phrase dans le tract qui dit que ça se passe à l'aube du Capital Market Day.
Ah, le fameux Capital Market Day.
Pourquoi c'est si important, cette date?
C'est le grand oral face à la bourse. Slomir Krupa et la direction doivent présenter leur vision à long terme aux investisseurs institutionnels.
C'est le moment de briller, quoi.
Il faut rassurer les marchés, faire monter l'action. Et le tract parle de rumeurs de gros choix stratégiques.
Donc, allumer un énorme feu social juste avant cet événement, c'est taper dans la rotule.
C'est chirurgical. Aujourd'hui, les investisseurs regardent beaucoup les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Une boîte qui rend ses employés malades, c'est un énorme drapeau rouge sur les piliers social et gouvernance.
Le syndicat se sert des actionnaires pour mettre la pression sur la direction.
Ils disent en gros, si vous nous parlez pas, vous irez expliquer ce chaos à vos investisseurs.
C'est vraiment de la haute voltige. Et pour rendre cette menace réelle, ils finissent le document par un appel à l'action. Ils demandent aux salariés de remplir cette page blanche en témoignant de manière confidentielle.
Oui, remonter l'application réelle de la charte sur le terrain.
Comme la boîte a cassé les thermomètres internes, le syndicat devient le seul canal d'écoute.
Et en faisant ça, ils politisent la souffrance individuelle. Tu sais, le burn-out ou l'épuisement. Le salarié le vit souvent tout seul. Il sent nul de pas y arriver.
Mais là, le syndicat regroupe tout ça.
Voilà, il transforme des milliers de galères solitaires en un fait social objectif. D'ailleurs, ils disent une chose super importante en conclusion. Les salariés compensent les erreurs des dirigeants depuis des décennies grâce à leur résilience.
C'est le pare-choc invisible de l'entreprise.
Et ce pare-choc vient de casser.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on résume ce qu'on a entre les mains, c'est bien plus qu'un coup de gueule sur le télétravail, c'est le sismographe d'un modèle de management qui s'effondre.
Le télétravail, c'est juste la partie émergée de l'iceberg.
Ouais.
Le vrai fond, c'est la perte de contrôle et de reconnaissance des gens. Et la stratégie de la CGT montre bien que, quand on bloque les voies légales normales, la riposte devient médicale et financière, avec le risque pour la réputation.
Ça prouve que le dialogue social est devenu hyper sophistiqué. On n'est plus dans la lutte des classes d'antan avec des bancartes. On parle de risques psychosociaux, de compliance, de critères ESG.
Et ça soulève quand même une énorme réflexion pour le futur, tu trouves pas?
Ah si, cela soulève une question cruciale même.
Bah oui, parce que si on y réfléchit, le système y craque là à cause de managers humains qui, pour faire du chiffre, ferment les yeux sur la détresse de leurs équipes. Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'arrivée de l'IA?
La gestion algorithmique du travail.
Exactement. Imagine quand les plannings et les tâches seront gérés par une IA dont le seul but est l'efficacité mathématique pure. L'algorithme, ils sont fous des cernes sous les yeux d'un employé.
Il comprend pas la charge mentale, ni la résilience silencieuse.
Mais c'est ça. Si de simples décisions humaines ont déjà brisé ce pare-choc psychosocial, à quelle vitesse un algorithme d'optimisation va complètement broyer les travailleurs?
C'est une perspective qui fait froid dans le dos. L'optimisation pure et dure finira forcément par s'écraser contre les limites biologiques et psychologiques de l'être humain.
Et ça, je pense que ça sera le cœur des prochaines grandes batailles syndicales. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis dans cette autopsie d'une crise annoncée. Lire entre les lignes de ce genre de document primaire, c'est vraiment le meilleur moyen de voir ce qui se passe sous le vernis des grandes boîtes.
C'était passionnant, en effet.
On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de nos sources. À la prochaine !